sous la coupole. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Le cinéaste Jean-Jacques Annaud est reçu sous la coupole de l'Institut de France au sein de l'Académie des Beaux-Arts le mercredi 28 mars 2012 par son confrère Roman Polanski. Canal Académie vous propose d'écouter la retransmission de l'installation de Jean-Jacques Annaud au sein de l'Académie des Beaux-Arts où il a été élu le 21 novembre 2007 au fauteuil précédemment occupé par Gérard Oury. Vous entendrez dans cette émission le discours d'installation de Jean-Jacques Annaud, lu par Roman Polanski, son confrère cinéaste, puis la réponse d'usage du nouvel académicien Jean-Jacques Annaud, membre de la section Créations artistiques dans le cinéma et l'audiovisuel, rendant hommage à son prédécesseur Gérard Oury, dont on connaît l'immense succès populaire pour ses comédies au cinéma. Retrouvons sous la coupole Roman Polanski pour la lecture de son discours.
La séance est ouverte. Monsieur le représentant de Monsieur le ministre de la Culture et de la Communication, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le chancelier, Madame, Monsieur le secrétaire perpétuel, chers confrères, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui l'Académie des Beaux-Arts a la joie d'installer sous cette coupole de l'Institut de France, deux mois après Régis Varnier, un autre grand cinéaste, Jean-Jacques Annaud, élu dans la section des créations artistiques dans le cinéma et l'audiovisuel, le 21 novembre 2007, au fauteuil précédemment occupé par Gérard Oury. Il sera accueilli par un de mes grands confrères, Roman Polanski, avant que Jean-Jacques Annaud ne prononce son hommage à son prédécesseur. La parole est à M. Roman Polanski.
Mes chers confrères, mesdames et messieurs, une requête au préalable, puisqu'il s'agit de l'installation d'un ami que je connais depuis bien longtemps, si solennelle qu'elle soit la circonstance, j'aimerais garder le tutoiement que nous employons dans la vie ordinaire. Vous me pardonnerez, je l'espère. Donc, cher Jean-Jacques, la première fois que j'ai entendu parler de toi, c'était à Los Angeles, pendant l'hiver 1976. Cette année-là, pour l'Oscar du meilleur film en langue étrangère, La Côte d'Ivoire présentait une comédie au titre bizarre, noir et blanc en couleur, signée d'un certain Jean-Jacques Annaud, inconnu au bataillon. On s'interrogeait, qui est ce type ? La rumeur se fondait sur le pavillon africain prétendant que tu étais noir, ce qui n'était pas pour déplaire. Plus tard, tu m'as raconté qu'un de tes producteurs présents sur place t'avait demandé de ne pas te montrer à Hollywood. Son intuition était la bonne. Pour ajouter au mystère, on racontait aussi que le film était sorti en France, mais qu'il s'intitulait « La victoire en chantant ». Un titre dont ironie échappait forcément à une communauté hollywoodienne peu au fait de nos chants révolutionnaires. On ajoutait que son échec avait été radical, autant d'informations qui excitaient ma curiosité. À l'époque, il n'y avait pas de DVD. Pour les Oscars, l'Academy of Motion Pictures, Arts and Sciences, l'Académie des Arts et Techniques du Cinéma, organisait des projections pour ses membres. Ainsi ai-je découvert ton histoire de minable petit blanc français qui, en 1915, saisi d'un brusque élan martial, décide de faire la guerre à leurs voisins allemands, mais bien sûr par nègre interposé. C'était incroyablement drôle et audacieux, avec tes boutiquiers prêts à en découdre pourvu que d'autres meurent à leur place, avec tes bons pères qui catéchisaient avec cynisme, tu ridiculisais allègrement les valeurs sacrées. Aujourd'hui, pareille insolence te vaudrait sans doute quelques déboires. la comédie serait jugée politiquement incorrecte. Je me demande même si elle trouverait un distributeur. En mars suivant, tu obtenais l'Oscar. Convaincu de perdre, tu n'étais pas là. Ton producteur fit un beau discours. Est-ce la raison pour laquelle il a gardé la statuette ? Mais la question « qui est donc ce type ?» demeura entière. Comment aurais-je pu imaginer que 35 ans plus tard, tu me demanderais de t'accueillir sur cette auguste coupole, au fauteuil d'un maître de la comédie, l'excellent Gérard Houry ? Comment deviner qu'il me faudrait, devant un public éminent, répondre enfin à cette fameuse question ? Après ce flashback personnel, reprenons par le commencement. Tu es né dans la banlieue parisienne le 1er octobre 1943. Tu es le fils unique, infiniment choyé, d'un père employé au chemin de fer et d'une mère secrétaire de direction. Jour tranquille à Draveil, dans le gris de l'après-guerre. Tu es un bel enfant avec des belles boucles. À ton grand chagrin, on te les coupera pour tes 4 ans. La tignasse argentée que tu arbores aujourd'hui est sans doute ta revanche. Tu lis La guerre du feu en bande dessinée dans Mickey. Tu collectionnes des images. Bientôt, tu fais des photos. Certainement pas tes parents, des sujets plus dignes d'être immortalisés, selon toi, des églises. Dans la foulée, tu entames un inventaire général des églises peu connues de France, en toute simplicité. Grâce à la profession de ton père, la famille voyage beaucoup. Tu ne vas rater aucun musée, aucun château. Mais il y a aussi le cinéma du dimanche, le Draveil Palace. Et puis, parfois, tu vois les films d'amateurs réalisés par un cousin et tu es bluffé. En ce temps-là, il fallait peu à un enfant de cet âge. Ta décision est prise, tu feras du cinéma. Tu viens d'avoir 8 ans et tu n'en démordras pas. Le plus étonnant de l'affaire, c'est que personne contrarie cette vocation précoce, extravagante, aux yeux du monde dans lequel tu grandis. Au contraire, ta mère, le premier émoi passé, se renseigne sur les carrières du cinéma et... Audace, inconscience, elle prend rendez-vous avec le directeur de l'IDEC. Naturellement, elle tient à présenter son fils adoré. Elle t'emmène avec elle. Le directeur Rémy Tessonneau, un peu déconcerté, quand même, lorsqu'il constate que l'impétrant est un gamin, a le bon goût de prendre les choses avec le sourire. Mieux, il indique la marche à suivre. Le bac latin-grec pour la formation technique de l'école de Vaugirard, qui est devenue l'école Louis Lumière, parallèlement aux licences de lettres à la Sorbonne, enfin l'IDEC. Le programme sera respecté en tout point. Le petit boursier banlieusard devient grand dévoreur de livres, rate Cinémathèque et Bêta Concours. Brillant, déterminé, un bon élève, quoi. La détermination, mes chers confrères, nous en connaissons l'importance. C'est vrai pour tous les arts, mais sans vouloir jouer les martyrs, je crois que le cinéma est en la matière encore plus exigeant. Qui ne l'a pas pratiqué ignore ce qu'il requiert de ténacité, d'effort, d'abnégation et de sacrifice. Il faut de la passion. Quels que soient les obstacles et les refus, on doit continuer, rebondir, ne jamais perdre de vue l'objectif, s'obstiner, s'acharner jusqu'à l'obsession, jusqu'à la monstruosité parfois. Les familles, les amis de ces énergumènes que nous sommes en savent quelque chose. Loué soit donc, cher Jean-Jacques, ta femme Laurence, que te supporte dans le sens du terme depuis plus de 30 ans. Il est vrai qu'elle connaît le métier, script, pour Coup de tête, ton deuxième film, elle ne t'a pas quitté, ni toi, ni tes plateaux. Tu as fait d'elle une conseillère à la mise en scène et la responsable de la continuité. Un mot très approprié en l'occurrence. Mais revenons au jeune homme de 20 ans qui voulait entrer dans la forteresse du cinéma et qui ne savait pas comment faire. Là, nous devons rendre hommage à une certaine Mademoiselle Nicolas, la secrétaire du directeur de l'IDEC dont je viens vous parler. Toi et ta mère, lors de votre visite, l'aviez évidemment charmée. Ce charme perdurait. En dernière année de l'IDEC, elle te dégote un travail, la réalisation d'un court-métrage sur les Japonais à Paris. 2 mois plus tard, elle te trouve un remplacement sur un film publicitaire. Tu es assistant, mais tu te débrouilles si bien qu'on t'engage comme réalisateur pour 15 jours suivants. L'homme qui te recrute est un pionnier du cinéma publicitaire, Jean Mineur, le bonhomme au pic, celui du célèbre Balzac 0001. La publicité va devenir ton autre école. Nous sommes au début des années 60, la publicité est encore balbutiante, mais bientôt la télévision va s'ouvrir à elle, et ce sera la ruée, les moyens illimités, la folie. Toi, dans ce grand bazar, tu fais tes classes. Tu filmes des voitures, des animaux, des bébés, même des comédiens professionnels. Assez vite, on t'accorde les meilleurs techniciens, les matériels les plus sophistiqués, des tournages lointains. Tout cela te servira plus tard. Tu travailles comme un forcené. Tu apprends aussi une autre leçon capitale, à dire non quand un projet ne te semble pas palpitant. Tu réalises des comédies de 90 secondes, tu t'essaies au spectaculaire, tu expérimentes. 500 pubs à ton actif. À toi les prix, les récompenses, les lauriers, tu joues dans la même cour que Hugh Hudson, Alan Parker ou Ridley Scott, tu deviens une star dans ta catégorie. D'autres auraient été grisés, pas toi. Tu n'avais pas oublié tes rêves de grand cinéma. Curieusement, ton expérience fondatrice, tu la dois au service militaire. En 1967, ayant épuisé tous les échappatoires possibles, tu es contraint de partir pour le Cameroun au titre de la coopération. Adieu la Cinémathèque, la Sorbonne, les cahiers du cinéma. Adieu les débuts dans la publicité. Ton désespoir est colossal. Tu songes même à une stratégie, te conduire si mal qu'on te renverra à Paris. Une réaction banale de cabochard. Mais l'Afrique va te captiver. Le jeune diplômé parisien se découvre trop rationnel, façonné par un savoir livresque, prisonnier de conventions et de règles qui le coupent de l'univers, de l'instinct, des sensations, oserais-je dire, du cœur. Les paysages, les bruits, les couleurs, les parfums, les saveurs, le rire des gens, tout est nouveau, tout enchante. Hormis certaines mœurs néocolonialistes qui te révulsent. Chargé par le gouvernement camerounais de jeter les bases d'une école de cinéma à Yaoundé, tu te lances, tu fais le professeur. Afin de chercher des sujets de documentaires susceptibles de convenir à tes élèves, tu parcours le pays et là, en chemin, tu découvres le sujet de ton premier long-métrage. Cette comédie bouffonne et tragique est en effet tirée d'un épisode réel de la Première Guerre mondiale. Quant au personnage du jeune homme, du jeune intellectuel conquis par l'Afrique, je le soupçonne, Jean-Jacques, d'être ton alter ego. Désormais, tu as un projet, la victoire en chantant. De retour à Paris et à la publicité, cette aspiration tourne à l'idée fixe, à la monomanie. Tu brilles dans la pub, mais tu ne penses qu'à ton grand cinéma. Quelques cinéastes t'ont repéré, François Truffaut, Claude Berry, Christian Fechner. On te propose des films comiques, un épisode dans la série de Charlot, tu refuses. Ce n'est pas cela qui t'intéresse. Monter un projet, les cinéastes parmi vous auront connu une de ces galères qu'ils affrontent film après film, quels que soient leurs états de service et leur notoriété. Pour un débutant, ça peut être une épreuve fatale. Mais toi, tu as tenu le choc. Le reste, l'écriture du scénario, l'après-post-production, le tournage en Côte d'Ivoire, tout nécessitera la même énergie, la même patience. Il aura fallu 10 ans pour que ta victoire sorte sur les écrans. Rien que pour cela, mon cher Jean-Jacques, bravo. Et chapeau à tous ceux qui ont ramé avec toi, Claude Berry, Costa Gavras, Jacques Perrin. Après ton Oscar, les propositions américaines affluent de grosses machines que tu as la sagesse de refuser. Un rien d'arrogance, peut-être, à la vérité. Tu ne te sens pas mûr pour affronter les studios dont tu redoutes le côté Moloch prêt à avaler les petits cinéastes étrangers et tu tiens à faire tes preuves en France. Sur une idée d'Alain Godard, un ami qui sera de presque tous tes films, un compagnon au long métrage, comme tu dis, tu écris « Coup de tête » avec Francis Weber. C'est une comédie narquoise à l'italienne sur les passions que déchaîne le football. Et aussi une fable sur la notoriété. On y voit un vaurien que tout le monde déteste devenir le héros de sa ville parce qu'il a marqué un but décisif. Mais le garçon est toujours le même. À nouveau, il y a quelque chose de ton histoire. Voué aux gémonies après l'échec de la victoire en chantant, on t'encense après l'Oscar. Pourtant, tu n'as pas changé. Mieux vaut en rire et poursuivre sa route. Claude Berry, qu'on appellera le parrain de cinéma français, misait sur toi qui avait envie de changer de genre. Il t'envoya chez le scénariste Gérard Brache, avec lequel il avait fait son premier film « Le vieil homme et l'enfant ». Là, nos chemins vont se croiser. Gérard et moi étions inséparables. Il était mon ami, mon complice. Il avait déjà écrit 7 de mes films. Nous en ferons 10 ensemble. Je l'avais connu à mes débuts à Paris chez un producteur dont il était le factotum. Au sortir d'un divorce houleux, c'était un train de misère, un sans-logis qui dormait dans le bureau sur un Lafuma camping. Les fins de semaine, il s'y laissait enfermer, ne se nourrissant que de pain arrosé de vinaigre. Pour tromper sa mélancolie, il composait des numéros de téléphone au hasard. Parfois, il tombait sur une âme sœur et il parlait pendant des heures. Il avait l'humour, l'essence de l'absurde et de l'insolite, un goût prononcé pour les entreprises folles. Tu partageais ce goût. Vous étiez fait pour vous entendre. Claude Berry avait une idée pour vous. Il vous a donné un livre qui ne vous passionnait ni l'un ni l'autre. Lors de votre premier rendez-vous, vous avez donc parlé d'autre chose. Avec enthousiasme, vous vous êtes découvert une maîtresse commune, la préhistoire. Illico, décision fut prise. Vous alliez vous en occuper ensemble. Mais sans folklore, pas question de stars vêtues de peau de bête façon Raquel Welch dans un million d'années avant Jésus-Christ. Enfant, vous aviez tous les deux fantasmé sur la guerre du feu. Voilà, vous teniez votre sujet. Mais il y avait une grosse difficulté, le langage. Comment nos ancêtres des cavernes allaient-ils s'exprimer ? Tu balayas l'obstacle avec superbe, les langages, on les inventera. Ainsi débuta une collaboration sans nuages et une de ces belles histoires d'amitié qui sont le sel de notre métier. Tu es fidèle. La composition de tes équipes, ton attachement à Claude Berry, puis à Jérôme Sédoux qui a repris les flambeaux, prouve. Avec Gérard, tu allais faire encore 4 films. Le nom de la rose, l'ours, l'amant, sa majesté mineure, il a dû te parler de moi comme il me parlait de toi. Tes tenues impeccables, ton art de séduire, ton pouvoir de conviction, tes emplois du temps démentiels, ta façon à la fois méthodique et boulimique de te documenter sur ton sujet du moment, tes colères, je savais tout de toi. Quand nous nous rencontrions, nous parlions métier, bien sûr, et nous nous lamentions sur les tracas financiers que suscitaient nos projets, toutes nos ambitions artistiques contrariées par des gens qui, forcément, n'y comprenaient rien. Il faut dire que tu renvoyais le bouchon très loin. Impossible n'entre pas dans tes catégories. Il te faut des mammouths pour la guerre du feu ? Pas de problème, on déguisera des éléphants. Pas deux ou trois, 18, que tu feras charger dans la tourbe du nord de l'Écosse. J'imagine les bordels. L'abbaye dont tu rêves pour le nom de la rose n'existe pas. Eh bien, on construira dans les environs de Rome un décor fabuleux qui rivalise en importance avec celui de Cléopâtre. Pour les intérieurs, après avoir visité près de 300 monastères dans toute l'Europe, tu choisis Eberbach sur le bord du Rhin. Et tu continues. Pour l'ours, tu as fait des castings des grizzlies et d'oursons aux États-Unis, en Allemagne et en Belgique. Engager une douzaine de tigres pour deux frères n'a pas non plus été une mince affaire. Tu as alerté tous les zoos du monde. L'amant t'amènera au Vietnam, hors noir, au Qatar, en Jordanie et en Tunisie. Quand tu te lances dans 7 ans au Tibet, qui évoque l'enfance du Dalai Lama, il n'est évidemment pas question de tourner sur les lieux. Ce n'est pas grave, tu vas reconstituer Lhasa dans les Andes, à la frontière de l'Argentine et du Chili. De même, tu trouveras en Allemagne, dans une région désolée proche de la frontière polonaise, l'endroit parfait pour y installer le chaos de Stalingrad. Mes chers confrères, dès qu'il y a un défi à relever, Jean-Jacques s'enflamme. Cet attrait s'étend évidemment au domaine technique. Ainsi, en 1995, il s'attaque au cinéma en relief. Avec un procédé nouveau, le système IMAX 3D, il tourne au Canada Les Ailes du Courage, qui raconte l'exploit d'Henri Guillaumet, le pilote de l'aéropostale tombé dans la cordillère des Andes. C'est le premier film en fiction réalisé avec ce procédé. Tant de fougue et de panache ont fait de notre confrère un cinéaste de renommée internationale. Certes, son port d'attache est la France, mais pour le cinéma, il est le citoyen du monde, toujours courant la planète, un jour résident à Los Angeles, un autre à Londres, quand ce n'est pas au Cambodge ou au Kenya. Ajoutez à cela des tournées de promotion qui lui font parcourir l'Europe entière, qui l'envoient aussi bien à Haïti qu'en Russie. T'as bien retenu le conseil de Truffaut, il faut accompagner son film. Tu as ainsi l'occasion d'essayer d'élucider un mystère auquel se heurtent tous les cinéastes. Pourquoi un film qui a déplu ici est-il célébré ailleurs ? Pourquoi un pays est-il conquis alors qu'un autre ne l'est pas ? A posteriori, on tente de trouver des explications, mais la chose demeure une énigme. Jean-Jacques, je ne ferai pas ici la liste de tes prix, trophées, honneurs et autres distinctions, ce serait trop long. Je voudrais pourtant mentionner la plus inattendue de tes décorations, cette glorieuse cicatrice que tu portes à ta fesse. Tu es en effet une des rares personnes à avoir survécu à l'attaque d'un ours. Le tien était un Kodiak, un animal qui pèse 900 kilos et qui dressé mesure 2,80 m. Il t'est tombé dessus à la fin du tournage de l'ours, encore une saute d'humour de vedette probablement. Te souvenant fort à propos de ta documentation, tu as fait le mort et tu t'en es tiré avec une blessure en bas du dos. Un ours originaire de l'Utah attaquant un metteur en scène français dans le fin fond du Tyrol, il n'y a qu'à toi que cela pouvait arriver. Mais qui est donc ce type ? À ce stade, nous disposons de quelques réponses. Jean-Jacques Hano est un globe-trotter, à l'étroit en France, à l'aise au large. Un cinéaste qui a tâté de presque tous les genres, mais qui ne s'est emprisonné dans aucun. Son ambition première, échapper au formatage, au scénario prévisible, au héros sympathique et inoxydable, à tout ce qu'il appelle l'hygiène globalisée du spectacle. Son aspiration essentielle, passer les bornes. Son œuvre est multiforme, mais on y retrouve quelques thèmes récurrents. Pêle-mêle, immersion dans les autres cultures, intérêt pour la communication, qu'elle passe par le langage ou par le geste, réflexion sur l'inné et l'acquis, sur la fraternité sous toutes ses formes. Il est fasciné par l'histoire avec un grand H, mais il excelle à la raconter via de petites histoires et des drames intimes. Une idée force court dans cet ensemble si varié, plaider pour la tolérance. Cet homme, mesdames et messieurs, est un idéaliste. C'est aussi un de ces artistes qui s'efforge des univers. En tout homme, prétendait Nietzsche, il y a un enfant qui veut jouer. Mon cher Jean-Jacques, tu es cet enfant joueur. Au fond, je ne te connais qu'un désir rêvé sans entrave. En cela, tu nous ressembles, cher confrère, et ta place est dans cette maison. Bienvenue parmi nous. Merci.
Je remercie Roman Polanski et j'invite Jean-Jacques Hano à présenter son hommage à notre confrère Gérard Aubry.
Eh bien, merci Roman de tout cœur. Et chers confrères, mesdames et messieurs, nous voici juste au tout début des années 20, c'est l'après-guerre. Marcel Houry est une petite brune aux yeux noisettes. Sa silhouette est ravissante, elle a mis son extraordinaire force de persuasion au service de Paris Soir. Pour ce grand titre de la presse quotidienne, elle invente la pub rédactionnelle. À la saison pluvieuse, elle fait publier des articles de publicité clandestine rédigés par le syndicat des fabricants de parapluies. Elle profite de l'actualité des avant-premières pour parler des chaussures Picasso créées par Perugia, artiste bottier, et de la gaine Charmis, portée ce soir-là par Marlène Dietrich. Serge Tenenbaum, lui, est violoniste, premier prix de conservatoire, une crinière à la Kessel, des idées progressistes et passionnées. Il est, je cite les mémoires de Gérard Houry, russe comme Dostoïevski, juif comme David caressant sa harpe. Il tire de son guarnier russe des sons déchirants. Serge et Marcel s'aiment, se déchirent, se détestent, se fâchent, se réconcilient, vivent leur amour, finissent par le saccager. C'est leur affaire, pas la mienne, se disait alors l'enfant Gérard Houry. Ce qui compte à l'époque pour le petit garçon, c'est de retrouver sa mère après la journée de travail, de s'endormir entre les deux chaleurs de sa maman Marcel et de sa grand-mère Mouta. Il vit dans une terreur, celle d'un remariage, qui viendrait mettre fin à la douceur de ce cocon. Cette occurrence redoutée ne se produira jamais. Marcel ne formera jamais un autre couple. Elle restera fidèle à son garçon. Les affaires marchent bien pour l'infatigable Marcel. Elle a l'idée d'un annuaire du luxe de Paris. Elle le fait financer par le plus célèbre couturier de l'époque, Paul Poiret, qui, lui, demande à Raoul Dufy d'illustrer l'ouvrage. Celui qu'on nommera le peintre de la gaieté restera jusqu'à la fin un des amis les plus intimes de la famille Houry, mon peintre, comme l'appelait Marcel. Gérard passe des journées entières dans l'atelier du maître. Elle regardait jeter sur la toile des couleurs vives, celles qui rehaussent ces scènes de fête. En sa compagnie, le jeune Gérard Houry rencontre tous ceux qui font le Montparnasse de l'époque. Vandongen, Derain, Braque, Fujita, qu'il adore entre tous. Et puis le jeune Gérard est de toutes les fêtes de ces années folles, celles où Paul Poiret le drape de soierie, le déguise en pacha, en mamamouchi, en empereur de Chine. Au lycée Janson de Sailly, Gérard n'est pas passionné par les études. De son aveu, ce qui l'intéresse le plus en classe, c'est sa voisine. Un soir, alors qu'il est sur le point de s'endormir, il entend sa mère et sa grand-mère s'affliger à voix basse. « Il n'en faut pas une rame. Tu as vu son carnet de notes ? Il est au-dessus de la moyenne seulement en gymnastique et en dessin. » « Que veux-tu ?» commente la grand-mère. Il est obsédé. Au matin, le lendemain, surprise, Gérard apprend que son allocation d'argent de poche est doublée. Marcel et Mouta réquisitionnent un ami de la famille qui conduit sur le champ le jeune homme dans un lieu où il va apprendre une chose. C'est que les femmes seront déterminantes dans sa vie. L'œuvre future en sera profondément affectée, même si c'est, comme on le verra, d'une manière inattendue et paradoxale. Du coup, Gérard va moins au cinéma. Il doit épargner. Ses nouvelles études lui coûtent cher. Sa passion pour le cinéma en version originale ne s'est pas éteinte pour autant. À la Gaîté Rochechouart, à l'Apollo, au lieu des fanats de cinoche américains, il continue à s'emballer pour les intrigues parfaitement ciselées des polars avec Humphrey Bogart, pour les comédies musicales aux chorégraphies époustouflantes de Busby Berkeley, pour les envolées touchées par la grâce de Fred Astaire et Ginger Rogers. Il est ébloui par les acteurs, par leur fantaisie, leur inventivité. Il se rêve en Clark Gable. Il déclare bientôt à sa mère, à sa grand-mère effondrée, ne pas comprendre à quoi lui servira le baccalauréat pour être acteur. Il s'inscrit au cours Simon. Il s'y révèle doué, très doué, y compris pour séduire la plus belle fille du cours, une lionne à la crinière rousse qui a choisi de se faire appeler Jacqueline Roman. Il lui passe la bague au doigt quelques mois plus tard, dépensant les dernières économies chez le bijoutier local alors que la famille affamée est en rade quelque part en Charente, en pleine débâcle de l'Exode. Car l'avancée des troupes d'Hitler met brutalement fin à une carrière théâtrale qui s'annonçait brillante. Gérard, en effet, a intégré le conservatoire, puis consécration absolue, la comédie française. Il a décroché le rôle de Britannicus dans la pièce de Racine en remplacement du titulaire envoyé au front. Il y est acclamé, mais doit déguerpir. La grande errance, j'ai envie de dire la grande vadrouille, commence à travers la France de la zone libre. Le jeune couple d'acteurs qu'il forme avec Jacqueline survit d'expédients, courant de cacheton en cacheton, acceptant pour quelques représentations des rôles improbables dans des théâtres qui le sont plus encore. Un jour à Marseille, dans une revue musicale du comique troupier à Libère, on le somme de se déguiser en ananas pour le tableau final dédié aux fruits de la Provence en compagnie des autres membres de la troupe déguisés en melon, citron et mandarine. Le jeune Gérard Houry, qui a dit Racine, sur la scène classique de référence, refuse tout net. Heureusement, pour faire vivre sa famille, car entre-temps, une jolie petite fille, Danielle, est née. Il reste la TSF, comme on disait alors. Dans les différentes villes de province de la zone libre, il prête son talent aux textes de pièces radiophoniques. Pas pour longtemps. Un jour, le chef de la station de Nice l'informe que les ondes officielles ne peuvent plus l'accueillir. Ah oui, c'est qu'il est juif. Gérard ne semble pas s'en être préoccupé ou même souvenu quand on lit ses mémoires. Lui qui a été élevé dans la laïcité la plus totale, même s'il est petit-fils de rabbin. Il se réfugie donc à Monaco, puis à Genève. La guerre prend fin, pas la galère. Franchement, ai-je la gueule des rôles pour lesquels on m'engage ? S'interroge Gérard Houry après deux interminables et invraisemblables décennies de vaches maigres. Certes, il a décroché de très beaux rôles au théâtre, mais au cinéma. Il vient de se faire traîner dans une flaque de boue par Gérard Philippe dans La meilleure part, casser la figure par Montand dans Les héros sont fatigués, révolverisé par Robert Hussein dans Méfiez-vous fillette, giflé 14 fois de suite par Bourvil dans Le passe-muraille. Dans La belle que voilà, Jean-Paul Le Chanois a distribué Gérard dans le rôle de la brute. La belle est jouée par Michel Morgan, dont le regard inoubliable a fait chavirer l'univers après son rôle dans Quai des Brumes. Elle revient des États-Unis. Ce jour-là, le 16 décembre 1949, à 12h, Gérard Houry tourne la scène de l'ascenseur. Description de la scène dans la feuille de service. La brute profite de l'étroitesse de la cabine pour proposer la botte à la belle et lui coller un patin sans embâge. Gérard répète la scène avec la doublure. Morgan paraît, moteur. Gérard saisit Morgan par la taille, l'embrasse. « Elle te plaît pas, Michel, gueule metteur en scène qui veut du réalisme ?» Deuxième prise. Il l'embrasse comme s'il l'adorait. Tu ne joues pas Roméo, mais la brute, dit le metteur en scène. Prise 3. Je le cite. Il l'étreint comme un fauve en rut, l'écrase contre sa poitrine. Parfait, on tire la 3. Morgan se glisse hors du décor sans un mot, sans un regard. Dans l'ascenseur flotte encore son parfum. Gérard y demeure quelques instants, le temps qu'il s'évapore. Plus jamais il ne s'évaporera. Pour Michel, c'est décidé. Il va devenir metteur en scène, faire un film et l'éblouir. Il écrit un scénario original, réussit à convaincre un producteur. Il tourne La main chaude. Un film sinistre, selon ses propres termes. Il l'a fait pour suivre la mode, qui est dans la lignée des films que Chabrol réussit. Mais lui, reconnaît-il, n'est pas Chabrol, la nouvelle vague déferle. Il n'appartient pas à ses chapelles. Le jour de la sortie, Gérard lit dans le Figaro une prédiction. Ceci est le premier film de M. Houry et assurément son dernier. La revue Art titre Haro sur Houry. Il est à terre, il se relève, sans tête, écrit un nouveau film. Un film à sketch, Le crime ne paie pas. Gérard excelle dans l'écriture. Il bénéficie depuis plusieurs années d'une solide réputation de scénariste, souple, inventif, brillant. Il a un autre atout majeur. Il connaît les acteurs, ceux avec lesquels il a débuté, ceux qui ont couru le cachecon comme lui, ceux qui ont fait des centaines de panouilles dans des centaines de films tombés dans l'oubli, ceux qui ont grelotté dans les coulisses en attendant leur tour dans des théâtres où il y a plus d'acteurs sur scène que de spectateurs dans la salle. Parmi ces acteurs qui rament depuis 30 ans, il y a un pitre génial, pianiste de jazz quand il a fini ses figurations au théâtre. Il s'appelle Louis-Germain David de Funès de Galarza. Gérard lui confie un rôle de barman dans un des sketchs du crime ne paie pas. Louis-Germain de Funès y est éblouissant. Pendant ce tournage, Gérard prend conscience que son plaisir s'avère beaucoup plus grand en voyant les autres jouer la comédie qu'en jouant lui-même. Attraper au vol un moment de grâce, le fixer sur la pellicule, se sentir en osmose avec ses comédiens, mettre la technique à leur service comme eux se mettent au service de l'histoire, tout cela, dit-il, me procure une joie extraordinaire. Un jour sur le plateau, Louis de Funès lui pose cette question. « Crois-tu être un metteur en scène de films dramatiques, de films réalistes? Si c'est le cas, tu te fourvoies dans l'œil. Parce que tu as ri et c'est très rare. »« C'est rare un metteur en scène qui rit ?» demande Gérard. « C'est exceptionnel, ça n'arrive jamais un metteur en scène qui rit. » Ce nouveau film, « Le crime ne paie pas », paie. C'est un succès. Un petit succès. Mais assez un succès pour permettre à Gérard d'oser un troisième film. Ce sera Le Corneau. Inspiré d'un fait divers qui avait défrayé la chronique à l'époque, une histoire d'un naïf qui se fait piéger par une fripouille en convoyant de Naples à Bordeaux une Cadillac bourrée de drogue, d'or et de pierres précieuses volées. Avant même de connaître l'histoire, Bourville, qui est une vedette considérable à l'époque, accepte de jouer le rôle du couillon dans le projet de ce collègue acteur devenu metteur en scène pour lequel il a respect et amitié. Houry offre le rôle de la fripouille à De Funès. L'acteur vient tout juste d'avoir 50 ans. Et rencontre pour la première fois de sa vie le public avec un petit film inattendu, Le gendarme de Saint-Tropez. Tant pis si c'est cher et si je ne gague rien, j'y crois, j'y vais. Gérard a accepté de ne pas être payé pour Le Corneau. Son producteur n'a pas pris de risque, sauf qu'il lui a proposé de partager les éventuels bénéfices. Erreur, ils seront énormes. Le film est encore à ce jour un des plus gros succès du cinéma avec près de 12 millions de spectateurs, rien qu'en salle et en France, pour sa première diffusion. Gérard Houry devient Gérard Houry. Il a fait mieux que De Funès. Il a seulement 46 ans. Michel Morgan n'est probablement pas impressionné. Gérard note qu'elle est inimpressionnable. Elle a tout vu, elle a tout eu. Mais elle n'a pas attendu le succès pour succomber à son charme. D'abord en cachette, puis après bien des drames et des déchirements, Michel et Gérard forment désormais un des couples les plus célèbres et les plus en vue de Paris. La pression est énorme pour qu'Houry donne une suite au Corneau. Bourville et De Funès sont d'accord pour refermer le tandem, mais Houry refuse de mettre les pieds dans les mêmes chaussures. Il propose aux deux acteurs un de ses anciens scénarios, une histoire de pilote anglais parachuté en territoire français, poursuivi par des Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale, et pris en charge par deux sœurs jumelles qui deviennent involontairement membres de la Résistance. « On va jouer les deux sœurs ?» interroge Bourville. « Presque, mais ce seront deux hommes, ça sera Fufu et toi. » Gérard reprend de fond en comble le scénario avec sa fille Danielle, qui s'appelle désormais Danielle Thompson, et va devenir la scénariste attitrée de son père, et plus tard la célèbre scénariste et cinéaste que l'on sait. La Grande Vadrouille est un triomphe. Le film qui attendra 40 ans pour être détrôné au box-office. Le film français qui, encore à ce jour, malgré les énormes succès d'autres comédies récentes, reste aujourd'hui le film en langue française le plus vu dans le monde. Gérard Oury imprime désormais son style, si singulier dans le comique. Sa marque, c'est la comédie à grand spectacle. La fusion du burlesque et du grandiose, le gag en cinémascope. Son style, c'est l'exubérance de la gaieté dans le faste des images, l'allégresse de la farce dans le luxe des décors, la joie débridée dans le raffinement des costumes. Paul Poiret, l'ami grand couturier des années folles, Raoul Dufy, Fujita et les maîtres de la peinture française du début du XXe siècle sont passés par là. Et aussi, soufflant dans toute l'œuvre de Gérard Oury, ce sens de la fête acquis dans l'enfance, pendant ces années d'entre-deux-guerres où il était urgent de s'amuser dans l'insouciance. Les événements de mai 68 manquent de faire capoter le prochain film, Le Cerveau, une superproduction franco-américaine pleine d'idées chères, comme le dira Daniel Thompson. Autour de l'incontournable Bourvil, Gérard réunit cette fois Jean-Paul Belmondo et deux stars anglo-saxonnes, David Niven et Lee Wallach. Il obtient de mobiliser le paquebot France pendant une semaine. Avant de paralyser le port de New York, il bloque celui du Havre pour tourner une scène mémorable. Il s'amuse comme un fou. Il le dit à son producteur Alain Poiret, lequel lui fait remarquer que tout de même, il a des amusements qui coûtent cher. Mais les amusements de Gérard Oury ne coûtent pas si cher puisqu'ils rapportent beaucoup. Le Cerveau est un succès. 5,5 millions d'entrées, sans compter, comme pour les autres films, et pendant des décennies, les innombrables passages sur les innombrables télévisions du monde entier. En jouant Ruy Blas, tandis qu'il gisait mort sur la scène pendant le second acte, Gérard réfléchissait à l'époque où il faisait l'acteur que le drame de Hugo ferait une superbe comédie. Ce sera La folie des grandeurs, un titre qui pourrait sous-titrer toute l'œuvre du maître. Il avait écrit le scénario pour son tandem fétiche Bourvil et De Funès. Hélas, au moment de lancer le tournage, Bourvil entre à l'hôpital et n'en ressort pas. Gérard, dévasté, abattu, ne se remet pas à la disparition de cet homme généreux, son ami de toujours et son ami toujours de bonne humeur, qui s'endormait en riant. Il décide d'abandonner le projet. Simone Signorelle en déçoit. Elle suggère qu'Yves Montand pourrait exceller dans le rôle. Pendant des mois, Gérard et Daniel reprennent le scénario. Montand le lit. Il est enthousiaste. Malgré son passé militant, il accepte de retourner en Espagne où l'histoire se déroule. Seulement voilà, quelques jours avant le début du tournage, Franco décide de faire exécuter par strangulation 16 militants basques. Montand fait irruption dans le bureau de Gérard, les dents serrées, il explose, il est hors de question qu'il remette les pieds dans le pays du dictateur sanguinaire. Le projet où Gaumont a investi une fortune capote. Son film capote une fois de plus, car le tournage du Cornio avait mal commencé. Le fils de l'assistant réalisateur avait emprunté la Jaguar verte du film la veille du premier tour de Manivelle et l'avait emplafonné. Conçu comme une promenade en décapotable sous le soleil de l'Italie, le tournage est retardé et subit tornades et inondations d'une arrière-saison désastreuse restée mémorable dans les annales de la météorologie transalpine. Le budget de la Grande Vadrouille, lui, était tellement pharaonique que le film avait failli ne jamais démarrer. Semaine après semaine, son producteur en faillite n'a pu poursuivre le film que grâce au casino de Deauville, où il allait gagner la paye des techniciens. Gérard Oury se demande donc si, malgré les apparences, il n'a pas le statut envié et calamiteux de metteur en scène maudit. Mais la réponse est non. Franco gracie les condamnés, Montand accepte de retourner et de tourner en Espagne. La folie des grandeurs dénonce la cupidité, l'arrogance et l'avidité des riches. Le film, néanmoins, rapporte encore une fois beaucoup d'argent à ses investisseurs. Dans ses mémoires, Gérard Oury note qu'à la fin de sa vie, Charlie Chaplin ne regrettait, paraît-il, qu'une chose, être devenu riche en jouant un pauvre. Bien plus que l'aisance matérielle que lui procurait son cortège ininterrompu de réussite, Gérard Oury savait à quel point il devait au succès public la liberté artistique dont il a joui pendant toute sa vie. Il faisait des films destinés à être vus et aimés, mais il a été libre de choisir ses sujets et de les faire à son goût. Ils sont souvent plus graves qu'il n'y paraît, porteurs sur le fond d'un sens que la légèreté de la forme masque à dessein. C'est le cas de Rabbi Jacob. De Funès y interprète un homme d'affaires raciste et irascible, confronté à un règlement de compte entre terroristes arabes. Après être tombé dans une cuve d'une usine de chewing-gum, il est amené à se déguiser en rabbin pour semer ses poursuivants. Voilà pour la partie drôlatique. Au-delà du divertissement, le film tend une main généreuse aux communautés juives et musulmanes, alors que la pression déjà montait au Moyen-Orient. Hasard du calendrier, Rabbi Jacob sort pendant la guerre du Kippour. La femme du publiciste Georges Craven, outrée par cette coïncidence et persuadée que le film contient un message anti-palestinien, détourne un avion et menace de le faire sauter si on laisse sortir le film. Elle est abattue par les forces de sécurité sur l'aéroport de Marseille. Oury est accusé à mots couverts d'avoir monté l'opération pour faire un coup de pub. Le film attire 7 millions de spectateurs en salle. Gérard retrouve Belmondo dans L'As des As. Un triomphe au box-office, un triomphe de plus, le triomphe de trop, peut-être. Le même jour de fin octobre 1982 est sortie Une chambre en ville de Jacques Demy. 75 000 entrées dès le premier jour mercredi pour Oury, 35 000, 20 fois moins pour Demy. Les critiques sont outrées, ils se mobilisent en faveur d'Une chambre en ville. Ils publient une page de pub dans tous les quotidiens. Oury tue les artistes, il assassine ses concurrents, etc. etc. Belmondo, ulcéré, réplique avec violence. C'est le début d'une polémique interminable dont tout le monde sortira meurtri. C'est à cette époque que je rencontre Gérard Oury pour la première fois aussi au Festival d'Avoriaz. Je suis impressionné. Je lui dis, il est le cinéaste qui a le plus contribué au rayonnement de notre langue à l'étranger. À chacun de ses films, les inscriptions font un bond spectaculaire dans les alliances françaises. Lui qui n'a gagné que 3 prix mineurs dans toute son immense carrière, s'étonne que des jeunes cinéastes lui témoignent autant de respect et de gratitude. C'est moi qui suis étonné. Monsieur Oury est d'une délicieuse courtoisie. Je regarde sa silhouette élégante, cette silhouette de légende du cinéma s'éloigner dans la neige, face au soleil, au bras de cette autre légende qui est Michel Morgan, vêtue de blanc comme lui, rayonnante. On fait les meilleures commodes avec les meilleurs ébénistes, aimait à répéter Gérard. De Funès disparu, le maître continue à s'entourer des plus doués, Pierre Richard pour deux films, La Carapate puis Le coup du parapluie, Coluche pour Le serpent à plumes, puis pour Vanille fraise, La soif de l'or, Fantôme avec chauffeur et Le Spons, Richard Anconina, Michel Bougenat, Sabina Gemma, Pierre Arditi, Christian Clavier, Gérard Jugnot, des acteurs avec lesquels il s'était merveilleusement entendu et qu'il adorait. Mais au fait, pourquoi Gérard, dont la vie et la carrière sont indissociables du monde des femmes, lui qui a écrit ses plus beaux scénarios avec sa fille adorée, Danielle Thompson, lui qui est marié à la plus célèbre d'entre toutes, pourquoi, à l'exception d'une scène mémorable de striptease d'Alice Sapricht dans La folie des grandeurs, a-t-il jamais tourné avec une femme en rôle principal? Pourquoi n'avoir jamais offert un rôle à Morgan? Parce que je suis un metteur en scène comique, répond Gérard Oury. Parce qu'on ne rit pas de ce qu'on respecte. Il confie. Par amour, Michel Morgan aurait sans doute accepté. Par amour, je ne lui ai pas proposé. Quand au début de chaque scénario, Gérard et Daniel ouvraient leur grand classeur à gags, seuls figuraient des mésaventures risibles dont étaient victimes les hommes. Une femme qui tombe dans un escalier ne fait pas rire, disait-il. Danielle Thompson rectifie. Une femme qui tombait dans l'escalier ne faisait pas rire. Les temps ont changé. Parler d'un musicien sans faire écouter sa musique, d'un peintre sans montrer ses tableaux, d'un sculpteur sans circuler autour de son travail est un exercice impossible, j'ai envie de dire illégitime. Ce lieu vénérable, chargé d'histoire et de tradition, n'a pas été imaginé par Mazarin pour rendre justice dans le format voulu aux images de Gérard Oury. Mais pour les quelques minutes qui nous restent, j'ai choisi néanmoins de vous remémorer 8 courtes scènes. Il y a des milliers d'images spectaculaires dans l'œuvre d'Oury, des centaines et des centaines de gags inoubliables et de répliques irrésistibles. J'ai choisi ces brefs moments, subjectivement, parmi mes préférés à moi, dans ses films préférés à lui, ceux qui, en début de carrière, ont changé son destin.
Ouvre ton œil, toi. Toi.
Oh non, alors non. Oh non, c'est une catastrophe. Regarde-moi ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu oublies qu'est-ce qu'il y a? Bah, maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément.
Where is Big Moustache?
I don't know. And if you don't know, I don't know, no?
I don't understand.
You come with me to pick up Peter.
No, you come with me to pick up Macintosh.
No. You.
I beg your pardon.
And if you don't come, Ah merde alors, comment on dit
comment
ça?
Comment ça merde alors? But alors, you are French?
Hmm? You are not English?
Évidemment, ce n'est pas des chaussures pour la marche que vous avez là.
Puisque vous me le proposez si gentiment, j'accepte.
Quoi ?
Que vous me prêtiez vos souliers.
Bah, vous chaussez du combien ?
J'ai du comme vous.
Ah, ah bon ?
Ah, ben là, ça va mieux.
Attendez-moi quand même.
Venez, allons.
Il faut que je m'y habitue.
Allons, venez pourtant.
Allez. Oh, oh. Finalement. Non, non. Il fait vraiment c'est vrai.
C'est l'or. Il est l'or. L'or de se réveiller. Monseigneur, il est 8 heures. Oui, oui, oui.
Il en manque une.
Vous êtes sort?
Tout à fait sort.
Ah, oh, mais ça alors?
Regardez sous le lit. C'est pas là! Elle est là. Regardez. Vous êtes trop grand. Vous êtes mon valet, vous êtes trop grand. Alors, allez, allons. Il faut que je vois ça, moi. Voilà, là, je vois ça, ça va maintenant.
Monsieur, c'est très bien que j'ai pas le droit de travailler le samedi.
Et alors, on est vendredi?
Pour nous, le sabbat commence le vendredi à la tombée de la nuit. Et pendant le sabbat, j'ai pas le droit de travailler.
Les chadodi likrat kala, kone shabbat nekabela, les chadodi likrat kala, kone shabbat nekabela.
Dites-moi, Salomon, ce soir, vous pouvez peut-être faire une exception. Je vous donnerai 2 sabbats la semaine prochaine.
On voit bien que monsieur n'est pas au courant des traditions.
Parfaitement, je ne suis pas au courant de vos 6 magrets. Je suis fier.
Monsieur n'a pas le droit de manger de la viande le vendredi. Moi, j'ai pas le droit d'allumer l'électricité le samedi. C'est pas plus bête.
Si, c'est plus bête.
Non, c'est pas plus bête.
Si, c'est plus bête.
Non, c'est pas plus bête.
Je vous dis si, et bien voilà, c'est... Je vous donne vos 8 jours. Comme ça, vous pourrez faire le sabbat tous les soirs.
Bien, monsieur. Comme monsieur voudra.
Allez, santé. Alors, la police, c'est le 22.
Ici, là.
Aziz. Allô?
Allô? Le 17, la police?
Oui.
Donne-moi le commissaire, vite, vite!
C'est le commissaire à l'appareil.
Monsieur le commissaire, il faut venir tout de suite à l'usine de chewing-gum, le Yankee.
De chewing-gum?
Oui, de chewing-gum, là.
Et qui êtes-vous, monsieur?
Victor Pivert, industriel à Paris.
Pivert,
comment Pivert?
Silence! Rabbi Jacob, elle va danser!
Rabbi Jacob sait très bien danser.
Hey!
C'est un miracle, Salomon, un vrai miracle.
F. Curie avait fait ce mot que Gérard Rouri a choisi de mettre en exergue à ses mémoires. Il est poli d'être gay. Merci, monsieur Rouri, de nous avoir enchantés pendant tant d'années. Merci d'avoir été, comme vous le dites avec tellement d'élégance et de pudeur, poli. Vous aviez, en 1998, succédé dans cette grande maison à René Clément. Je suis honoré, infiniment reconnaissant et très ému d'avoir été élu pour occuper votre siège. Merci.
Vous venez d'entendre la retransmission de la cérémonie d'installation de Jean-Jacques Haneau au sein de l'Académie des Beaux-Arts qui s'est déroulée le 28 mars 2012 sous la coupole de l'Institut de France.